RTL.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Je suis méchant, il est méchant.
De Gaulle, Mitterrand, Churchill et plus près de nous, Chirac, Sarkozy, Hollande. On va savourer ces vacheries de nos hommes politiques avec notre invité François-Xavier Testu. Bonjour.
Bonjour Sidonie, bonjour Thomas.
Bienvenue chez nous.
Vous êtes avocat, professeur de droit à l'université de Tours. Allez, on commence avec François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995. Mais il a commencé sa carrière dans la Nièvre. Le voilà qui se présente aux élections cantonales. Face à lui, je crois qu'il y a un candidat communiste. C'est quoi l'échange entre les deux ?
Alors, c'est donc une campagne électorale très locale. Je crois que c'était des élections cantonales dans la Nièvre, dans les années 1950. Et le candidat communiste, à l'époque, le Parti communiste a le vent en poupe, le candidat communiste dit « Je passerai comme une lettre à la poste ». Et Mitterrand répond « La poste est fermée le dimanche
». Et on vote le dimanche, évidemment, tout le monde s'en souvient. Mitterrand qui a beaucoup martyrisé Michel Rocard, qui a été son Premier ministre pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il disait sur cette période et sur son Premier ministre en général ? Il y a pas mal de citations.
Oui, alors il y a une grande inimitié entre les deux. C'était pas du tout le même genre de personne, comme tout le monde l'a compris. C'était deux personnes intelligentes, mais dans un genre extrêmement différent, d'un point de vue culturel, etc., et de la personnalité. Et en particulier, alors que Rocard était Premier ministre de Mitterrand depuis plusieurs années, le bruit courait que sans cesse Mitterrand exerçait des brimades sur Rocard. Et les journalistes finissent par poser la question à Mitterrand, et Mitterrand leur répond « Eh bien, quand on persécute un homme 3 ans de suite, c'est qu'il a le goût de la persécution.
» Et que disait Mitterrand sur les chances de Rocard de devenir président à son tour ?
Alors effectivement, on avait parlé à un certain moment d'une candidature Rocard à une élection présidentielle future, et Mitterrand disait « Rocard président, non, les Français ne porteront jamais à leur tête un homme qui pèse 40 kilos. »
Oh, c'est terrible.
Ah oui, c'est violent, c'est même des attaques physiques.
Et à la fin de son mandat, François Mitterrand, donc on est en 94, des journalistes lui demandent de désigner ceux qui pourraient lui succéder. Donc on a compris que Rocard, c'était compliqué, mais qu'est-ce qu'il répond aux journalistes ?
C'est très méchant, je crois qu'aujourd'hui on n'oserait plus, même un président de la République n'oserait pas. Et donc, quand on l'interroge sur les candidats possibles à sa succession, Mitterrand affecte de réfléchir, et puis il dit une suite de noms dans un certain ordre, puisque l'ordre de l'importance. Il dit, eh bien, Jacques Delors, François Léotard, Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing, mon chien, Michel Rocard.
Donc son chien avait plus de chance que Michel Rocard.
Pardon, ça me fait beaucoup rire. C'est effectivement une violence absolue. Et je pense que ça passerait difficilement aujourd'hui avec la caisse de résonance à méchanceté des
Et à la fois, ça faisait du bien cet humour aussi, quelque part.
Oui, c'est une soupape
de sécurité. On a beaucoup plus de langue de bois maintenant.
Alors, il y a des moments comme ça dans la vie politique française que tout le monde attend, qui sont les plus regardés à la télévision. Évidemment, ce sont ces débats d'entre-deux tours de la présidentielle. Alors là, on est en 1988, donc on a toujours François Mitterrand comme protagoniste. Et face à lui, Jacques Chirac. Tout le monde se souvient de cette passe d'armes.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
C'est parfait, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et d'ailleurs, Chirac a souvent été un peu comment on pourrait dire, François-Xavier Testu, un peu en situation d'infériorité par rapport à François Mitterrand, d'une manière générale, dans les relations entre les deux hommes.
Alors je pense qu'il s'aimait bien, mais Mitterrand disait régulièrement de Chirac, il est gentil, mais il manque de structure mentale. Alors c'est extrêmement sévère, bien sûr, mais malgré tout, on comprend un petit peu ce qu'il voulait dire par là. On sait que Chirac était un grand homme politique, mais enfin, il y a eu quelquefois une navigation un peu variable selon les courants, etc.
Et alors, dans ce débat, il y a un autre passage dont on se souvient beaucoup moins. En tout cas, j'avoue que je ne m'en souvenais pas. Il y a donc Jacques Chirac qui... C'est vrai que Mitterrand avait une réputation avec les chiffres. C'était pas l'économie, c'était pas son domaine de prédilection. Donc Jacques Chirac lui balance quoi ? Une série de chiffres ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Mitterrand avait la réputation comme la gauche en général, spécialement à l'époque, de ne pas être très sérieux en matière économique, et puis d'être fâché avec les chiffres. C'est vrai que Mitterrand, considéré un peu comme De Gaulle, c'était une autre génération que l'intendance, donc l'économie aussi doit suivre, et le commerce. Chirac avait décidé de prendre l'ascendant à ce sujet, l'avantage, et Chirac lui avait balancé sans cesse une série de chiffres, une avalanche de statistiques, et après l'émission, alors Mitterrand répondait bon, ponctuellement, et à la fin de l'émission, on avait demandé à Mitterrand, mais ça vous a pas gêné, tous ces chiffres qu'il vous sortait? Et Mitterrand répond, non, pas vraiment, mais j'ai vraiment cru qu'il voulait me placer une assurance.
Évidemment, vous publiez, François-Xavier Testu, le bouquin des méchancetés, illustré, c'est une nouvelle édition revue, augmentée, il y a 400 nouvelles histoires que vous racontez dans ce livre qui est publié chez Robert Laffont, évidemment à la collection Bouquin. D'ailleurs, la collection fête ses 40 ans. On va raconter maintenant un autre match, mais alors deux géants de l'histoire, Charles de Gaulle face à Winston Churchill.
On est aux premières loges.
Quand vos collègues du monde politique ont la gentillesse de vous faire comme cadeau un portrait peint par un ambitieux moderniste, on est bien obligé de se demander s'ils nous font un cadeau ou s'ils nous jettent un mauvais sort.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le décor a été installé et le public est assemblé, prêt à entendre un grand discours d'adieu.
Sur RTL.
Il y a un seul problème, c'est que l'acteur principal a oublié son texte.
Extrait de The Crown, discours de Churchill à la découverte du tableau qu'on lui offre pour ses 80 ans. Et même si c'est une fiction, The Crown, c'est un discours qu'il a vraiment prononcé. François-Xavier Testu, vous êtes professeur de droit à l'université de Tours. Vous avez répertorié de ce qui se fait de mieux en termes de vacherie, pique et coup bas. Politique, bien sûr, pour le bouquin des méchancetés illustrées. L'ambitieux moderniste, quand il dit ça, Churchill, c'est qu'il trouve qu'on lui offre une croûte et que c'est un vieux tableau, c'est ça, en quelque sorte?
Oui, et puis il n'aimait pas l'art moderne, parce qu'il avait dit un jour à un grand critique londonien, qui s'appelait je ne sais plus comment, il avait dit « Si on croise Picasso un jour, serez-vous d'accord avec moi pour lui botter le cul ?» Bien sûr, monsieur.
Alors, Winston Churchill, évidemment, grand héros britannique de la Seconde Guerre mondiale, il a eu plein d'honneurs, évidemment. On lui a construit notamment une statue, et il est là pour l'inauguration. Il la découvre, et qu'est-ce qu'il dit quand il la voit?
Alors oui, ce n'est pas vraiment une méchanceté, mais enfin, dans le contexte même, il faut savoir que Churchill n'aimait pas les journalistes parce qu'il trouvait leurs questions idiotes, et en l'occurrence, les journalistes lui demandent après l'inauguration, qu'est-ce que ça vous a inspiré quand on a découvert votre statue, ouais. Et il a répondu, eh bien dans ce cas-là, on commence à voir les pigeons d'un autre œil. Ce qui est effectivement un trait d'esprit.
Il avait de la compassion.
C'est de l'autodérision aussi, évidemment. Alors Churchill, c'est 50 ans de carrière politique, donc forcément, il y a un chapitre richissime dans votre livre, François-Xavier Testu. On va choisir quelques anecdotes et on va commencer par les Premier ministre, parce qu'avant de le devenir lui-même, il en a eu beaucoup à côtoyer. Voici Lloyd George, ils sont dans une auberge et Lloyd George cherche les toilettes.
Voilà, alors ça se passe avant la Première Guerre mondiale, donc c'est le jeune Churchill, puisqu'à l'époque, il appartenait au Parti libéral dans le sillage de Lloyd George. Lloyd George, on peut le rappeler pour les auditeurs, c'était le Clémenceau anglais, il a eu le même rôle que Clémenceau en France, pour l'Angleterre, bien sûr. Donc, ils sont en campagne électorale, dans une petite ville du centre de l'Angleterre, ils sont dans une auberge, ils viennent de déjeuner, et Lloyd George, qui était quand même l'aîné de Churchill, dit à Churchill, savez-vous où sont les toilettes? Et Churchill lui dit, oui, vous allez là-bas, au fond du couloir, vous verrez une porte sur laquelle il y a marqué « Gentleman », mais vous entrerez quand même.
Il y a aussi une bagarre contre une femme. Il n'y a pas énormément de femmes, parce que dans cette génération, il y avait assez peu de femmes qui atteignaient le sommet de la politique. Mais en voici une. Lady Nancy Astor, d'abord, il faut la présenter. On peut dire que c'est une pionnière.
Alors, c'est une pionnière, d'autant plus curieusement qu'elle n'était pas anglaise. Alors, elle a été, comme vous l'avez indiqué, la première représentante de sexe féminin à la Chambre des communes, en Angleterre. Et pourtant, elle était d'origine américaine. Bon, enfin, c'était une personnalité très, très particulière.
Et elle avait beaucoup d'humour.
Elle avait beaucoup d'humour.
Répartie.
Elle avait une personnalité très forte. C'était une puritaine qui avait divorcé parce qu'elle accusait son mari d'être un alcoolique violeur, alors que je crois qu'il essayait tout simplement d'avoir affaire à sa femme dans des conditions ordinaires. Mais enfin, elle avait une
personnalité. Ou pas.
Oui,
vous
oui,
ah, pas
oui,
dans
oui,
le...
oui, oui, peut-être. Elle a obtenu, elle a obtenu le divorce. D'ailleurs, en Angleterre, comme elle était très belle, les femmes anglaises, elles dit, mais vous êtes venue sans doute nous prendre nos maris. Et elle a répondu, si vous savez combien j'ai eu de mal à me débarrasser du mien, vous ne poseriez pas une question pareille.
Bon, elle adore cette lady Nancy Astor. Qu'est-ce qu'elle répond à Churchill qui lui parle d'un bal masqué où il est invité?
Oui, c'est ça. Alors, il ne lui parlait pas à elle, parce qu'il avait tendance un peu à la mépriser. Ils étaient tous les deux, ils appartenaient tous les deux au Parti conservateur. Ça se passe dans le couloir de la Chambre des communes. Et Churchill devait aller à un bal masqué. Il était invité. Il détestait les bals masqués, mais là, il fallait qu'il y aille. Et il s'interroge tout haut devant le petit groupe. Et il se demande comment il va pouvoir se déguiser. Et Lady Astor lui dit Winston, allez-y à jeun et personne ne vous reconnaîtra.
Bon, je vous dis, c'est mon héroïne.
Ah oui, elle est très forte. Il y a eu des passes d'armes entre Lady Astor et Winston Churchill à la Chambre des communes.
Oui, alors il y en a eu un certain nombre. La plus célèbre, je vais la raconter, même si après vérification historique, j'ai pu voir que c'était en fait Lloyd George qui était, bon, bref, peu importe, avec une autre actrice, si je peux dire, de la scène. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin, ce qu'on raconte d'habitude, mais l'histoire est vraie, ce ne sont pas les mêmes personnages, en fait. Ce qu'on raconte d'habitude, c'est que Churchill, qui était assez misogyne, comme tout le monde le sait, avait fait une sortie, un discours à la Chambre des communes qui ne plaisait pas du tout à Lady Astor, qui l'interrompt et qui lui dit, à la fin de comme péroraison, si j'étais votre femme, j'empoisonnerais, je mettrais du poison dans votre thé. Et Churchill répond, et si j'étais votre mari, je le boirais.
Et donc en fait, donc ça c'est la légende, mais l'histoire vraie, c'est Lloyd George,
voilà,
avec une autre députée.
Voilà,
c'est
j'ai retrouvé un jour par hasard. D'accord, l'histoire, bon. 30 ans plus tôt, c'est vrai que c'est assez intéressant aussi, c'est à l'époque des suffragettes, vous savez, les féministes de l'époque en Angleterre, qui sont très actives et qui viennent troubler toutes les réunions politiques, et c'est entre une suffragette et Lloyd George.
François-Xavier Testu, comme promis, on va raconter ce duel entre deux géants, Winston Churchill et Charles de Gaulle, deux héros de guerre qui se respectaient, mais n'hésitez pas quand même à se chambrer. On est pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres et le Premier ministre entre dans le bureau du chef de la France libre. Comment Churchill est-il vêtu et que lui dit de Gaulle?
Alors oui, il faut se remettre un petit peu en situation, c'est-à-dire que c'est peu après l'appel du 18 juin 40, donc de Gaulle est un grand inconnu pour la majorité des Français, et n'en parlons pas pour les Anglais, pour les Américains aussi. Donc il a un petit bureau, Churchill vient le voir, et Churchill ce jour-là est habillé comme les Anglais par excentricité l'affectent quelquefois, et donc il a un nœud papillon ou une cravate à pois, une chemise rayée et un costume à carreaux.
Ah, c'est pas mal. Et de Gaulle,
De Gaulle est en uniforme.
En uniforme de militaire.
Comme toujours, bon. À l'époque du moins. Oui. Et de Gaulle le voit Churchill entrer comme ça, et bon, ça léguait évidemment, et lui dit « Tiens, je ne savais pas que c'était le carnaval à Londres aujourd'hui. » Et Churchill lui répond « Tout le monde ne peut pas se déguiser en soldat inconnu. »
Waouh !
Ah ouais, quel esprit, ouais. Quel esprit. Bah oui, parce qu'il n'était effectivement pas encore connu, même s'il avait déjà l'ego de celui qui pensait qu'il représentait la France. D'ailleurs, Churchill, il avait une formule à propos de la Croix de Lorraine, laquelle ?
Oui, alors il disait que de toutes les croix qu'il avait apportées, la Croix de Lorraine était la plus lourde. Il y a une formule sur De Gaulle qui est très bien aussi, c'est, il disait, vous vous souvenez de De Gaulle, la grande silhouette, 1m92, bon, ne sachant pas toujours quoi faire de son corps, le nez en l'air, et Churchill disait, quand je le vois, j'ai toujours l'impression que c'est un lama femelle qu'on aurait surpris dans son bain. Et je trouve que l'image, le lama femelle qu'on a surpris dans son bain, bon, oui, c'est assez surréaliste, mais c'est assez évocateur.
Piège de l'enfer.
Ouais.
Piège de l'enfer, c'est le film ultime du dimanche soir.
Ok,
en ce cas-là, il faut un super bon méchant.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout d'abord, la méchanceté est un acte gratuit. C'est un gaspillage, il n'y a pas d'objectif, ça n'apporte rien.
Sur RTL.
Je suis Zangief et je suis méchant.
Salut Zangief.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pourquoi être si méchant, Zangief? Pourquoi n'être pas plutôt gentil?
On a entendu un extrait du Palmacho, là juste à l'instant c'était Les Mondes de Ralph, et au milieu un extrait d'une conférence sur la méchanceté qui avait été donnée à l'université de Nantes par Thierry Patrice. Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur le fait que ça ne sert à rien, la méchanceté.
Ouais.
D'ailleurs on peut même se demander si ce n'est pas une qualité en politique, et c'est ce que l'on aborde aussi avec notre invité François-Xavier Testu, qui est avocat, prof de droit à l'université de Tours. Vous répondez quoi à cette question? Est-ce que c'est une qualité en politique?
Alors, je répète, je crois que c'est l'esprit qui est une qualité plus que la méchanceté. La vacherie telle qu'on l'a caractérisée jusqu'à présent, c'est effectivement... Mais il y a le côté présence d'esprit que les Français adorent. Ils se disent que si l'homme a de la présence d'esprit, enfin l'homme politique, ça pourrait être une femme politique, bien sûr, si l'homme politique a une présence d'esprit, c'est une qualité qui va lui servir dans la vie.
Et puis, ça fragilise l'adversaire.
Bah, évidemment,
ça l'enfonce, ça le ridiculise. Bon, bref, on est plutôt d'accord. Alors, justement, on était avec Charles de Gaulle, qui a eu la très bonne idée de donner enfin le droit de vote aux femmes en 1944. Rappelons que la France était très en retard sur beaucoup d'autres pays dans le monde. Pourtant, ça fait tiquer un de ses anciens potes, un de ses anciens camarades de Saint-Cyr. Racontez-nous la scène.
Alors, ça se passe effectivement à l'Élysée. De Gaulle est président. Il a invité un de ses anciens collègues de Saint-Cyr, condisciple plutôt de Saint-Cyr. Mmh. Et tout d'un coup, ce général dit « Eh bien, pourquoi donc, diable, avez-vous donné le droit de vote aux femmes ?» Et De Gaulle, assez agacé, lui répond « Je me suis en effet demandé si je n'avais pas commis une erreur, mais il y en a une pire encore, c'est quand j'ai décidé de laisser le droit de vote aux militaires.
Oh, » C'est extraordinaire.
De la part d'un tout militaire lui-même, c'est très...
Alors De Gaulle, enfin, c'est connu, mais dans un dîner en particulier, il y avait son ministre capitan qui n'était pas d'accord avec la politique du général et qui lui disait « Bon, finalement, bon, écoutez, mon général, je renonce à comprendre. » Et De Gaulle lui dit « Vous avez raison, capitan, renoncez à comprendre, on gagnera du temps.
» De Gaulle qui devient président de la République en 1958 et qui se trouve face à l'un de ses ministres qui vient d'être inculpé. Pardon. Vous nous racontez la scène ?
Oui, alors effectivement, c'est un ministre qui était inculpé pour des faits assez graves et qui étaient pratiquement établis, assez accablants donc. Et il vient se plaindre au général, et puis c'est une longue jérémiade, et il lui dit « à cause de toutes ces choses qu'on me reproche, j'ai des ennuis avec la justice, la confiance qu'on avait en moi disparaît, mes amis me tournent le dos... Ma femme même menace de me quitter. Et puis tous ces journaux qui mentent, je ne le mérite pas. Je n'ai plus qu'à me suicider. » Et De Gaulle semble alors sortir de sa distraction et lui dit « Ça, monsieur le ministre, ce n'est pas interdit par la loi. »
C'est terrible. Oh, ça, c'est quand même méchant et dangereux, presque. Non, oui, c'est de l'humour.
C'est méchant, mais enfin l'autre avait qu'à bien se tenir après tout.
De Gaulle et Chaban aussi, Jacques Chaban Delmas, qui a été Premier ministre, mais après, pas Premier ministre du général De Gaulle. Mais bon, Chaban, ancien résistant, maire de Bordeaux pendant de longues décennies, qui avait une autre idée de lui-même d'ailleurs. Il arrive face à De Gaulle, comment on peut dire, il imagine son avenir, c'est ça?
Il vient surtout. Tâter les sentiments du général parce que il sait bien que c'est le général qui décide. Et donc Chaban, effectivement, assez arriviste, et finalement, comme vous le rappeliez, il y est arrivé, mais après De Gaulle, dans le cours de la conversation, où il a parlé de choses et d'autres, il dit à De Gaulle un peu lourdement, eh bien, certains de mes amis, mon général, vous savez, me verraient bien à la chancellerie, certains autres me verraient bien à la présidence de l'Assemblée nationale. Certains même me verraient assez bien Premier ministre. Enfin, mon général, qu'en pensez-vous?
On attend la pique.
Voilà. Et De Gaulle lui dit, eh bien, Chaban, changez d'amis.
Et voilà. Le ballon est dégonflé. Oui. François-Xavier Tessier, on racontait tout à l'heure comment François Mitterrand parlait de Michel Rocard. Il ne fallait pas faire confiance à un bonhomme qui pesait 40 kilos. Enfin, ce genre de remarques.
Oui,
de
les Français n'éliront jamais quelqu'un qui pèse 40 kilos. Oui.
Exactement. Et c'est vrai que les présidents ont du mal avec leur Premier ministre, souvent.
Plutôt le contraire. Ce sont les Premiers ministres qui ont du mal avec les présidents.
Oui, mais ils sont cruels souvent ces présidents. Oui. Et Nicolas Sarkozy, il avait la dent dure contre François Fillon, on s'en souvient. Par exemple, sur sa lecture des journaux, qu'est-ce qu'il disait? François Fillon adorait lire la presse.
Oui, alors, on dit que Sarkozy demandait à ses conseillers, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Fillon? Bon, ah oui, il lit le journal, et après, quand il a fini de lire le journal, qu'est-ce qu'il fait? Il le relit. Bon, c'était évidemment ce genre de phrase. Alors, il y en a beaucoup qui sont inventés.
Ah oui, bah alors c'est ça, c'est souvent aussi, on se dit quoi, sont les collaborateurs du président
qui... Oui, alors on prétend que il y avait des membres du cabinet à l'Élysée, enfin l'entourage du président qui n'aimait pas beaucoup François Fillon et son entourage, et donc on faisait circuler on prêtait à Sarkozy des mots très cruels que Sarkozy n'a pas forcément dit.
Enfin, parce que alors, le fonctionnement de la Ve République fait qu'il y a aussi une concurrence entre l'Élysée et Matignon, et entre les conseillers du président et ceux du Premier ministre. Parfois tire un peu à lui et à dire.
Tout à fait. Alors c'est même pas une concurrence, c'est-à-dire que la Constitution est ainsi faite. Enfin, vous le savez comme moi, qu'il y en a un qui est là pour prendre les coups, le Premier ministre, et il y en a un autre qui est là pour décider. Donc il faut vraiment aimer ça, être Premier ministre.
Bon, alors même si on n'est pas sûr que Nicolas les ait prononcées, ces phrases...
On l'appelle Nicolas par son petit nom.
Je dis quoi, Nicolas Sarkozy, pardon. Je ne le connais pas du tout, je vous le dis tout de suite. C'était juste notre ancien président. Voilà. Que dit Nicolas à François? Alors, qu'est-ce qui a été rapporté? Quelles bonnes piques ont été rapportées? Parce que vous en donnez quand même quelques-unes, François-Xavier Tessu, dans votre livre.
Il y en a un certain nombre qui traînaient dans les journaux à l'époque, qui sont plus ou moins drôles. Je crois que la meilleure, c'est il ne suffit pas d'avoir des gros sourcils pour être Pompidou. Et c'est vrai que Pompidou, ça reste quand même le prototype du Premier ministre qui a résisté au président et qui même a fini d'une certaine manière par renverser le président.
Il y en a une autre qui est terrible, c'est il n'existe pas, à propos de Fillon, personne ne l'a jamais rencontré.
Oui. Ouais.
On croit qu'il est intelligent et gentil, il n'est ni l'un ni l'autre. Mais bref, on n'est pas sûr que ce soit Nicolas Sarkozy, effectivement, qui les a prononcées ces phrases. On termine, François-Xavier Testu, avec ce qui est peut-être le champion français toute catégorie de la vacherie politique, c'est Georges Clemenceau, qui a été président du Conseil à deux reprises. Qu'est-ce qu'il disait, par exemple, de son directeur de cabinet, Georges Mandel? C'est violent, hein?
Oui, alors c'est l'époque où Clemenceau était président du Conseil, ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises. Mmh. Et Georges Mandel, c'était son directeur de cabinet, donc il avait bien sûr la tâche de faire quelquefois le sale boulot. Et puis surtout, s'il y avait quelque chose qui se passait mal, c'est lui qui devait assumer. Un petit peu comme, d'une certaine manière, comme le rapport entre aujourd'hui un président de la République et un Premier ministre. Mmh. Et Clemenceau résumait ça de la manière suivante. C'est quand je pète, c'est lui qui pue. C'est bon, très imagé. Mais...
Ouais. Et si on terminait là-dessus?
Oui.
Hein, c'est pas mal comme dernière
phrase. Avec plaisir. Attendez, pardon. Avec plaisir.
Je crois que je vais m'en souvenir de celle-là. Merci beaucoup, François-Xavier Testu.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous pour toutes ces méchancetés.
Voilà, on a adoré ce bouquin des méchancetés illustré, nouvelle édition, revue augmentée, 400 nouvelles histoires et anecdotes, rites et coutumes de la 5e. C'est chez Robert Laffont.
Et vive l'esprit, la répartie, on aime ça dans la curiosité.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.